Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 39. Les jours qui suivirent cette entrevue avec Gravard, Jean-Clément Charles fut d'une humeur particulièrement badine. La perspective d'une nouvelle réunion avec Butte le contrariait au plus haut point, mais celle de revoir Martine, sa secrétaire, le ravissait, et le ravissement l'emportait sur la contrariété. Le jour venu, il revêtit un costume clair qu'il n'avait plus porté depuis plusieurs années, ce qui ne manqua pas d'étonner son épouse, qui lui fit remarquer qu'il n'était plus très à la mode. Il douta un instant en se regardant dans le miroir, mais resta finalement sur son avis, il devait porter ce costume aujourd'hui. Il avait rendez-vous avec Paul Butte à 9h, mais savait pertinemment qu'il n'arrivait jamais au bureau avant 9h30, au mieux. Pourtant, il s'assura d'arriver dès 8h30 pour patienter en compagnie de Martine, qui lui offrirait sans doute, comme à son habitude, un café. Cette fois, il n'avait pas apporté de boîte de chocolat et s'était retenu d'acheter des fleurs. Il voulait garder la possibilité de faire marche arrière au dernier moment. Si Butte avait été là plus tôt que prévu, ou si Martine avait montré des signes d'agacement en sa compagnie. Au contraire, celle-ci parut enchantée de le voir, et lui sourit radieusement alors qu'il arrivait au bout du couloir. Cette fois, il ne pouvait plus reculer. Les jambes en coton et la bouche sèche, il accepta volontiers le café qu'elle lui proposa et lui servit comme toujours sans plier les genoux, offrant au PDG une vue panoramique sur sa poitrine. Ils discutèrent de choses et d'autres, comme ils l'avaient fait de nombreuses fois depuis quelques mois, mais Jean-Clément Charles orienta peu à peu la discussion vers un registre plus personnel. S'intéressant à son fils et plaisantant sur la chance qu'il avait d'avoir Martine comme mère, il installa bientôt l'ambiance propice à sa déclaration d'intention. L'objectif non avoué de sa visite à Paul Butte lui proposait de boire un verre à la sortie du bureau dès ce soir. « Vous faites quoi ce soir ?» lui demanda-t-il, non sans un effort pour tenter de réguler les battements de son cœur. « Ce soir ? J'amène mon fils au judo, » répondit Martine, croyant naïvement que Jean-Clément Charles s'intéressait simplement à son emploi du temps familial. « Je peux vous offrir un verre pendant la séance de judo de votre fils ?» La secrétaire posa sa tasse de café et adopta une autre posture. Elle croisa les jambes et les bras et recula instinctivement dans son fauteuil. Avant qu'elle ne répondît, Charles sut à quoi s'en tenir et regretta ses paroles. « Je suis désolé, » dit-elle sans méchanceté. « Je crois que cela ne va pas être possible. »« Je comprends, et j'espère que vous saurez me pardonner cette maladresse. J'ai cru que... Enfin, cela n'a pas d'importance. » »« J'ai beaucoup apprécié nos discussions et ces moments qu'on a passés ensemble. » Cela m'a permis d'oublier un peu le fichu caractère de mon patron, mais... » « Mais ?» interrogea Charles, qui était encore plus sous le charme de son hôte depuis qu'elle l'avait éconduit. « Mais vous êtes trop vieux, » finit-elle par lâcher maladroitement, sans trouver de manière plus polie d'exprimer ce qu'elle ressentait. Elle essaya de sourire et décroisa les jambes pour atténuer la force de l'argument, mais il atteignit néanmoins le PDG en plein cœur. Il posa à son tour sa tasse de café en tremblotant, et c'est à ce moment que Paul Butte fit irruption dans le petit hall, devant son bureau où se tenait la scène. « Tiens, monsieur Charles, vous êtes déjà là ? Joli costume » hurla-t-il presque. Le PDG se leva sans quitter la secrétaire des yeux, comme pour poursuivre la conversation par télépathie. On pouvait lire dans son regard de la tristesse, bien sûr, mais aussi quelque chose comme de l'empathie, voire de la pitié. Il tendit la main à Martine en la remerciant sobrement pour le café, puis disparut dans le bureau de Paul Butte, où celui-ci s'était déjà engouffré. « Que se passe-t-il, cher ami ? Vous avez souhaité me voir ?» commença Paul Butte en surjouant l'amitié qui n'avait jamais existé entre les deux hommes. « Je voulais vous parler de Montélimar, » répondit Charles sèchement, immédiatement remis en selle par son aversion pour l'homme qu'il avait en face de lui. Une aversion peut-être teintée de jalousie. « Montélimar ? Pourquoi ? « Vous envisagez d'y passer vos vacances ?» continua Butte sur un ton toujours aussi désagréable. Une rumeur laisse penser qu'eux aussi travaillent sur un projet de véhicule à hydrogène. Je voulais savoir si vous en aviez connaissance. Une rumeur ? Mais d'où vient cette rumeur ? Nous avons reçu un appel d'un assembleur qui prétend rencontrer les mêmes problèmes techniques que nous. Comme nous n'avons pas de concurrent direct à Montélimar, en tout cas à notre connaissance, nous avons pensé que cela ne pouvait être qu'une structure nouvelle, comparable à celle qui nous relie. Un autre pôle de compétitivité sur la pile à combustible, vous voulez dire ? Exactement. Ne serait-ce pas inquiétant pour nos financements futurs ? L'État peut-il se permettre de mener de front deux pôles sur le même thème ? En effet, c'est ennuyeux, mais à ma connaissance, il n'y a qu'un seul projet comme le nôtre. Je vais essayer de me renseigner. Je vous tiendrai au courant. Sinon, ça avance ? Les deux directeurs échangèrent quelques mots sur la poursuite du projet et les échéances à venir. Paul But renouvela avec insistance son empressement à obtenir des véhicules pour sa flotte interne, en invoquant le président de région et les échéances électorales qui ne manqueraient pas de précipiter les exigences de résultats des élus. Quand Jean-Clément Charles sortit du bureau, Martine n'était pas dans le sien. Il s'y attendait, mais cela l'attrista quand même. Paul But téléphona aussitôt à François Pernier, qui participait à une réunion des présidents de région au Sénat. Ce dernier accueillit la nouvelle froidement et, avant même de raccrocher, repéra du regard son homologue de la région Rhône-Alpes, qui était en train de fanfaronner auprès d'autres élus. Il s'approcha de lui et l'interrompit sans ménagement. « Désolé d'interrompre ton sketch, mais j'ai à te parler. » Surpris, l'élu de la région Rhône-Alpes s'excusa auprès de son assistance et suivit Pernier dans un coin de cet immense hall du palais du Luxembourg. « Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si tu essaies de me doubler sur la pile à combustible, je lance une fabrique de nougat. »« De quoi ?» s'étonna l'autre qui visiblement ne comprenait rien. « La voiture propre, c'est chez moi qu'elle se fera. Ta région ne manque pas de projets importants et soutenus par l'État. Chez nous, c'est désertique. » Et on n'a même pas le tourisme pour nous sauver. Si tu pars sur l'écologie, je ne manquerai pas de te rappeler publiquement le fait que l'Ardèche est le seul département sans gare ferroviaire. Je vais torpiller ton plan de com. Mais je n'ai jamais eu l'intention de faire des voitures à hydrogène. Qui t'a mis ça dans le crâne ? J'espère bien. Si tu tiens à ton investiture du parti pour le prochain mandat, ce serait mieux pour toi que je me trompe. Range tes menaces. Je te dis qu'on ne fait rien autour de l'hydrogène. Enfin, c'est insensé. La conversation s'arrêta net. Et les deux élus se séparèrent immédiatement. Dès que Pernier fut assez loin, l'autre empoigna son téléphone et composa le numéro de son DG. « Oui, Franck, c'est Pierre. Oui, la pile à combustible, ça te dit quelque chose ? On a des boîtes qui sont là-dessus par chez nous ? Bon, prends-nous des rendez-vous avec tous ceux qui gravitent de près ou de loin avec l'automobile, il y a de la subvention à grappiller. Apparemment, du lourd, parce que le pôle de compétitivité commence à flipper. » « Oui, le pôle H. Ils doivent ramer et l'État doit s'impatienter, je suppose. Il y a peut-être moyen de les doubler. T'inquiète pas pour la forme juridique que ça prendra, je m'en occupe. Je vois le ministre des Transports cet après-midi, il est de notre côté. Ok, merci. » D'humeur maussade, le PDG de Automobile Composant sortait de l'hôtel de région et s'apprêtait à regagner sa voiture. Il n'avait aucune envie de retrouver son bureau, d'attaquer une journée de travail après l'échec qu'il venait d'essuyer. Trop vieux. Et si Martine avait raison ? Sa remarque l'avait blessé très profondément, car elle faisait écho à un sentiment diffus qui le travaillait depuis plusieurs mois maintenant. Il n'avait jamais imaginé sa vie après le travail, sa propre retraite. On n'envisage jamais vraiment sa retraite. Elle vous tombe dessus et puis voilà. Il avait toujours trouvé étrange ces gens qui l'attendent impatiemment, parfois dès l'âge de 40 ans. Pour lui, c'était avant tout une antichambre de la mort. Se forçant à oublier le refus de Martine, juste pour se réchauffer le cœur, il essaya de rallumer la flamme qui l'animait ce matin en arrivant, quand il l'aperçut dans sa robe plissée. Il ressentit un léger frisson tout le long de sa colonne vertébrale à cette idée. Il se dit alors que, s'il était trop âgé, peut-être pour conquérir de nouveaux territoires, pour gagner des parts de marché, ou pour entamer des projets novateurs, il ne l'était assurément pas pour vivre encore et ressentir des choses fortes. Il pensa à son épouse qui, ce matin, sans se douter et avec bienveillance, lui conseillait de changer de tenue pour aller voir sa rivale. Il pensa à ses enfants et ses petits-enfants qu'il n'avait pas vus depuis longtemps et qu'il connaissait si peu, en fin de compte. Il se surprit à imaginer construire avec eux une cabane dans les grands arbres qui bordent sa propriété, faire un feu de bois pour manger des saucisses grillées et tenter de leur transmettre l'envie d'entreprendre et d'aller de l'avant comme il l'avait fait tout au long de sa vie, et comme son grand-père l'avait fait avec lui. C'était dans l'ordre des choses, et il en prenait conscience seulement aujourd'hui. Transmettre. Tout son mal-être des derniers mois tenait dans ce mot. À son âge, il devait maintenant s'attacher à transmettre. transmettre le flambeau de son entreprise qui lui survivrait sans doute et porterait encore longtemps la marque de son PDG, transmettre ses valeurs aux générations futures, en commençant par ses propres descendants, pour qu'ils ne deviennent pas des polbutes, rendre à son épouse ce qu'elle lui a donné, de son temps pour qu'il bâtisse sa carrière alors qu'elle s'occupait des enfants, de sa patience quand il rentrait tard, fatigué ou préoccupé par son travail, de son amour inconditionnel, même quand il envisageait ce matin de lui être infidèle. Il sourit en voyant son reflet dans la vitre de sa voiture. C'est vrai que ce costume était désuet. Il se dit que Paul But l'avait sans doute remarqué, mais qu'il s'en fichait dorénavant. Il rentra à la maison pour se changer. Sa femme n'était pas seule.